France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Victime du chemsex. Deux hommes sont morts à Bordeaux, deux autres dans le coma. La pratique a explosé avec le Covid alors que les risques sont réels, s'alarment les médecins. Moscou crie au vol contre l'Union européenne qui veut utiliser l'argent des avoirs russes gelés pour acheter des armes aux Ukrainiens. Nous serons en direct de Russie dans un instant. L'actualité, c'est encore le maire de Châteauroux qui conseille aux patients d'éviter les urgences de sa ville. Le sort d'un hippopotame devant le Conseil d'État. L'avoir avec soi résout tous les problèmes. Le mathématicien Michel Talagrand vient de recevoir le prestigieux prix Abel, un peu comme un Nobel pour les mathématiques. Juste après ce journal, comment supporter les enfants des autres? Le téléphone sonne au 01 45 24 7000 ou sur WhatsApp au même numéro.
France Inter.
Plusieurs enquêtes sont donc ouvertes à Bordeaux après des soirées chemsex qui ont tourné au drame ces derniers jours dans la ville. La pratique, encore méconnue il y a quelques années, se développe. Des soirées de sexe sous l'emprise de drogues de synthèse. Elles viennent de faire plusieurs victimes à Bordeaux, Stéphanie Scock.
Deux personnes retrouvées mortes dans un appartement rue Maubec à Saint-Michel le 12 mars. Deux autres sauvées in extremis quatre jours plus tard alors qu'elles se trouvaient dans le coma. Le lien entre ces hommes, la consommation de stupéfiants lors de soirées chemsex. On parle de drogue de synthèse, cocktail d'amphétamine et d'ecstasy au pouvoir euphorisant qui augmenterait le plaisir et les performances sexuelles. C'est le témoignage d'une victime rescapée qui a permis aux enquêteurs de faire le lien avec cette pratique de chemsex. Le parquet de Bordeaux a ouvert trois enquêtes différentes pour faire toute la lumière sur ces affaires. Nous avons contacté le professeur Marc Auriacombe, psychiatre addictologue à l'hôpital Charles Perrins de Bordeaux pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. L'une des hypothèses, dit-il, c'est un arrivage surdosé de cette drogue récemment à Bordeaux. Il pourrait s'agir aussi de primo-utilisateurs qui n'ont pas su l'utiliser.
Information signée Stéphanie Scock de France Bleu Gironde. Le phénomène est né dans les années 2000, mais longtemps resté confidentiel. Il a explosé pendant les années Covid. Amine Benyamina est le chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, auteur d'un rapport sur le sujet.
Je ne suis pas étonné de voir ces accidents apparaître maintenant. Et les morts dans le cas du chemsex, c'est le principe de l'iceberg. Probablement, même certainement, des overdoses qui ne sont pas signalées. Probablement, on a, de manière exponentielle, des gros consommateurs qui prennent des risques. Et c'est ce qu'il est très urgent de quantifier et de contenir. Les produits deviennent dangereux lorsque nous, centres spécialistes, les médecins, la police, les chimistes, toute la filière de la santé le découvre en même temps que ceux qui les consomment. C'est pire que tout parce que vous consommez plusieurs drogues en même temps. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne savez pas ce que font l'association de toutes ces drogues et vous ne connaissez pas votre sensibilité. C'est tout ça qui doit vous amener très clairement à une grande, grande, grande méfiance.
Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, qui est aussi le président de la Fédération française d'addictologie avec Laurent Kramer. Deux ans après le scandale, le géant des EHPAD, Orpea, change de nom et devient Emeis. La marque était très abîmée, justifie son directeur général, ébranlé par les révélations de maltraitance des résidents. Le groupe emploie 28 000 personnes en France. Quand un maire conseille à ses habitants d'éviter les urgences, c'est le courrier au vitriol que le maire de Châteauroux vient d'envoyer à l'agence régionale de santé parce que les délais d'attente explosent à l'hôpital jusqu'à mettre les patients en danger, Alexandre Moto.
Des propos choc pour une situation choquante comme celle de Geneviève, 40 heures aux urgences à cause d'un AVC.
J'ai été 19 heures debout, un petit peu livrée à moi-même. Ils se sont aperçus que c'était un AVC où là, j'ai été perfusée. Le problème, c'était le manque de personnel. Les aides-soignantes, les infirmières qui étaient là, elles étaient mais débordées. Il y avait énormément de monde, mais personne pour s'en occuper réellement.
Après ce courrier d'appel à l'aide du personnel des urgences adressé au préfet, le maire de Châteauroux prend à son tour la plume et met la pression sur l'ARS et donc sur l'État.
L'État, il est conscient des difficultés médicales au plan national. Peut-être qu'il n'avait pas conscience de l'impact particulièrement fort sur l'hôpital de Châteauroux. Il ne faut pas qu'on s'habitue à considérer comme normale une situation qui est anormale.
Karine Joanneau de la CGT dit oui sur le fond, mais pas sur la forme.
S'il y a des choses qui changent, c'est très bien. Sauf que monsieur le maire, s'il a voulu lancer une bombe, faire réagir, ce genre de propos, le fait de ne pas aller aux urgences, c'est juste hyper violent. Il aurait pu faire autrement. Tout le monde n'aura pas la chance d'aller à Limoges. C'est partout pareil.
Les préconisations sont mises en place et seront suivies de très près pour que cette situation cesse d'être anormale.
Alexandre Motto, France Bleu Berry. Le trou de la Sécu se réduit encore, mais moins qu'espéré par le gouvernement. 10 milliards 800 millions d'euros en 2023. Le gouvernement tablait sur 2 milliards de moins. Alors que le Premier ministre se félicitait ce matin d'une hausse record de mise en recouvrement des fraudes fiscales et sociales l'année dernière. 15 milliards 200 millions d'euros. Et c'est Emmanuel Macron qui devrait jouer les perles à rigueur ce soir auprès des chefs de parti et présidents des groupes parlementaires de la majorité. Convié à l'Élysée pour parler de la situation politique et des finances publiques. L'INSEE ne rendra son verdict que mardi prochain, mais l'on s'attend à un net dérapage du déficit public.
Après plus de 2 ans de guerre et de sanctions, l'Union européenne est bien décidée à utiliser les revenus des avoirs russes gelés.
Des avoirs qui représentent l'équivalent de 200 milliards d'euros dans l'Union européenne, qui permettent de dégager quelque 3 milliards de revenus chaque année, un argent dont les Européens veulent se servir pour financer l'achat d'armes, de munitions pour Kiev. La proposition sera discutée lors du sommet des 27, de demain et après-demain. Mais Moscou réagit déjà. Bonsoir Sylvain Tronchet, notre correspondant en direct de Russie, et en des termes assez forts.
Oui, les Européens doivent être bien conscients des dégâts que de telles décisions pourront causer et nous allons les poursuivre sur des décennies. Voici ce qu'a dit en substance tout à l'heure le porte-parole du Kremlin, évoquant donc le plan européen de saisie d'une partie des actifs russes. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, elle parle de banditisme, de vol. Bref, la Russie, comme on pouvait s'y attendre, est farouchement opposée à la saisie de son bas de laine. Ceci dit, elle peut encore dormir tranquille si les Américains et les Britanniques pousse pour cette saisie, c'est l'Europe qui a les cartes en main parce que c'est là qu'est placé l'essentiel des réserves russes. En l'état, le projet de l'UE consisterait à ne saisir que les intérêts produits par les 200 milliards russes gelés en UE. La plupart des pays européens, dont la France, estiment qu'il n'y a pas de base pour saisir le capital. Les intérêts, vous l'avez dit, représenteraient 3 milliards par an. On est loin des besoins de l'Ukraine, 40 milliards cette année, mais ce serait déjà ça, à condition toutefois de parvenir à un accord demain. Et après, il faudra encore attendre que les intérêts se forme parce qu'a priori, la décision ne pourra pas être rétroactive.
Sylvain Tronchet, merci à vous en direct de Moscou. L'Europe, moins unanime sur la question des importations ukrainiennes. L'accord trouvé hier se voit aujourd'hui bloqué par l'opposition de la France, de la Pologne et de l'Italie. Ce sont les mesures pour le blé qui leur paraissent insuffisantes alors que les agriculteurs continuent de mettre la pression. Anthony Blinken est reparti en tournée, le chef de la diplomatie américaine en Arabie Saoudite, avant de se rendre vendredi en Israël. C'est le 6e déplacement dans la région du chef de la diplomatie américaine depuis le 7 octobre. Et le conflit au Proche-Orient résonne jusqu'à Hollywood, 10 jours après les Oscars. Plusieurs centaines de personnalités juives du cinéma reprochent au réalisateur de la zone d'intérêt, Jonathan Glazer, son discours le soir des récompenses. Sébastien Paour est à Washington.
Jonathan Glazer, qui est juif, déclare ceci dans son discours de remerciement. Nous refusons que notre judéité et l'Holocauste soient détournés pour une occupation qui a causé tant de souffrances pour tant d'innocents. Que ce soit les victimes en Israël le 7 octobre ou l'attaque en cours à Gaza, ce sont toutes des victimes d'une déshumanisation. Applaudissements dans la salle où certains comme Mark Ruffalo ou Billie Eilish portent un badge rouge pour demander un cessez-le-feu à Gaza, mais une partie de la famille du cinéma est indignée et publie donc cette lettre dans la presse spécialisée comme Variety pour dénoncer les commentaires du réalisateur. « Nous réfutons, écrivent les signataires, que notre judéité soit détournée dans le but d'établir une équivalence morale entre un régime nazi qui cherchait à exterminer une race et une nation israélienne qui cherche à éviter sa propre extermination. » Et ils ajoutent, le discours de Jonathan Glazer donne du crédit à la diffamation moderne qui alimente une haine anti-juive croissante dans le monde, aux États-Unis et à Hollywood. Fermez les guillemets. Près d'un millier de personnes ont déjà signé le texte, dont l'actrice Jennifer Jason Leigh, le réalisateur Eli Ross et le producteur de La La Land, Gary Gilbert. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et selon les agences de l'ONU, plus d'un million de personnes à Gaza, environ la moitié de la population, vivent aujourd'hui dans une situation alimentaire catastrophique, en particulier dans le nord, où la famine sévira d'ici le mois de mai en l'absence de mesures urgentes.
À 40 ans, il est grand temps de se mettre en retraite.
Surtout quand on est un hippopotame. Ah oui. Le Conseil d'État s'est penché sur le cas de Jumbo aujourd'hui, emblème du cirque itinérant Müller-Zavatta depuis 38 ans. Son directeur directeur ne veut pas s'en séparer. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Hélène.
Mais l'association One Voice a saisi la plus haute juridiction administrative parce qu'elle voit dans l'itinérance de l'animal de la maltraitance.
Oui, parce que Jumbo a atteint l'âge de l'espérance de vie d'un hippopotame, parce que même s'il ne se produit plus, il vit dans cette caravane de cirque et que selon One Voice, les petits bassins, les températures fraîches de l'hiver sont surpoids. Il pèse une tonne de trop, relève de la maltraitance. Mais la question juridique qui se pose aujourd'hui place du Palais Royal à Paris est de savoir si l'autorisation qui avait été accordée au cirque de détenir Jumbo en 2017 était conforme ou pas. La réponse évidente est oui. En 2017, les conditions semblaient réunies pour que Jumbo reste chez les Müller-Zavatta. Mais à l'audience cet après-midi, le rapporteur public, dont les avis sont souvent suivis par le Conseil d'État, a proposé une innovation jurisprudentielle, l'appréciation dynamique de la cause. C'est-à-dire que pouvoir répondre à la question qui était posée en 2017 en tenant compte de l'évolution de la situation et donc de dire non, Jumbo ne peut plus rester dans le cirque. L'avocate des propriétaires a protesté. Qui peut savoir si Jumbo serait mieux là où il a toujours vécu ou dans un EHPAD? C'est donc le Conseil d'État qui réglera le sort de ce papy-popotame.
La décision qui sera rendue dans 2 ou 3 semaines. Ils ont milité pour l'abandon du retraite point pour les petits excès de vitesse, contre la fin du permis de conduire à vie. Les membres de la Ligue de défense des conducteurs, 1 million de sympathisants en France, sont en colloque à l'Assemblée nationale pour parler de sécurité routière. Et en la matière, pour eux, ce n'est pas sur la répression qu'il faut miser, Chloé Geffroy.
3170 morts sur les routes de France en 2023, un chiffre en baisse de 3% par rapport à 2022 selon la sécurité routière, des chiffres qui restent effectivement trop élevés pour la Ligue de défense des conducteurs. Nathalie Troussard est la secrétaire générale de l'association.
Aujourd'hui, pour améliorer la sécurité routière, le lien, c'est le rapport entre vitesse et accidentologie. Les conséquences de ce lien-là, elles sont la mise en place de plus de 4600 radars aujourd'hui sur nos routes. Un radar automatique, ça n'interpelle pas un conducteur dangereux. Donc là, il y a un problème.
Pour Norbert Pirot, membre d'une association de victimes de la route, il faut forcément de la répression, mais la clé pour faire baisser le nombre de morts, c'est la pédagogie. Lui-même a été victime d'un accident et il aimerait davantage intervenir dans des stages de récupération de points pour parler de son expérience.
Il faut informer les gens, expliquer ce qu'est un accident. Tout simplement, les gens ne le savent pas. Ils ne sont pas bêtes, mais ils ont passé leur permis il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ne se souviennent plus forcément. Et puis ils se disent, tiens, j'ai bu 3 verres. Est-ce que je suis positif ou négatif?
Autre proposition de Norbert Pirot qu'il a évoquée pendant ce colloque, donner une récompense, un point par exemple à tous les conducteurs SAM qui respectent leur rôle en soirée, toujours dans l'optique d'inciter à la bonne conduite.
Google mise à l'amende une nouvelle fois. L'autorité de la concurrence française sanctionne le géant américain d'une amende de 250 millions d'euros sur l'accord dit des droits voisins, celui qui permet aux journaux ou agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont utilisés par les moteurs de recherche. Ça, il ne l'avait pas prévu. Le français Michel Talagrand vient de recevoir le prix Abel de mathématiques de l'Académie norvégienne des sciences et des lettres. Lui qui s'est donné pour mission de mieux comprendre tout ce qui est aléatoire dans le monde, comme le poids des bébés, la taille des vagues. Voici comment il parle de sa spécialité.
Un mathématicien confronté à un problème essaie de l'explorer, c'est-à-dire que le problème étant trop difficile, il essaie de chercher des problèmes reliés mais qui soient plus simples. Mais il y a vraiment des idées qui viennent dans le cerveau à malheureusement des intervalles assez éloignés et qui apparaissent comme par miracle. C'est mystérieux pour tout le monde. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour qu'une idée se produise, il faut s'être confronté pendant longtemps avec le problème. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les mathématiques sont un sport de jeunes. Les idées se ralentissent avec les années. La dernière fois que j'ai éprouvé le fait de vraiment l'émerveillement d'avoir une nouvelle idée, j'avais 52 ans. Quand même, maintenant, c'est le temps de m'arrêter. J'ai 72 ans, je sais très bien qu'il n'y a aucune chance de faire aucune contribution importante.
En tout cas, c'est une belle récompense.
C'est même une récompense un peu difficile à porter. Je n'endors pas la nuit, quasiment. J'ai eu beaucoup plus que je ne le méritais.
Michel Talagrand avec Sophie Bécherel. Une interview à retrouver en longueur sur le site de France Inter.
Le pollen de bouleau fait son retour dans plusieurs départements.
C'est normal, c'est le printemps. Le réseau national de surveillance aérobiologique veille. En attendant, les enfants découvrent les bienfaits du jardinage dans les écoles. C'est une semaine spéciale. À Bonneuil-sur-Marne, en banlieue parisienne, 3 classes de CP s'y sont mis en pensant écologie. C'est le reportage d'Océane Zitouni.
Arrosoir, sécateur, binette disposés sur une longue table, c'est l'atelier des outils animé par Samy. Le jardinage de demain, ça passe tout d'abord par des moyens économes en eau, explique-t-il à la dizaine d'enfants autour de lui.
J'ai caché quelque chose, moi, derrière moi. Ici, ça s'appelle le réserve d'eau. On garde l'eau de la pluie et on fait d'économie d'eau.
Juste à côté, un autre groupe a lui les mains dans la terre, c'est l'atelier rempotage. Isma, 6 ans, plante
un œillet d'Inde et un fraisier.
L'œillet d'Inde, cette fleur aux couleurs jaune-orangée, n'a pas été choisie au hasard, explique Marie, l'animatrice du rempotage.
En général, quand dans un potager on met des œillets, c'est pour que les pucerons aillent sur les œillets et laissent les plantes tranquilles. Moins de pesticides, pas de traitement et ça fait des produits bio.
Pour finir l'initiation, le troisième atelier où se tient Jérémy propose de limiter ses déchets. L'essence des enfants sont en éveil devant les bocaux de compost.
Comment ça se dégrader et santé. Ça sent pas bon. Hein. Qu'est-ce que vous voyez ?
Des vers de terre.
Un composteur, ça évite de jeter pour rien toutes les plantes que vous avez rempotées tout à l'heure. Et bien vous pourrez les nourrir avec ce compost-là.
Chaque jeune pousse repart avec son plant de fraisier et son pot de fleurs, sans compter le lot de connaissances d'un vrai petit jardinier en herbe soucieux de l'écologie.
Reportage Océane Zitouni. Et quand le ballon ne tourne plus rond, que les baskets sont usées, eh bien donnez-les. La grande collecte de sport démarre aujourd'hui, en pleine année olympique. Donner une seconde vie au matériel sportif, ce n'est pas forcément une habitude dans le milieu. Hugo Marceau est allé faire le tri avec le club de foot de l'AS Centre de Paris juste avant l'entraînement des moins de 12 ans.
Elles sont encore potables, même elles sont pas très abîmées.
Dans des caisses en plastique étiquetées par pointure, Nordine stocke des dizaines de paires de chaussures à crampons.
Oui, elles ont servi. Celles-là, je les ai depuis septembre. Celles-là, pareil.
Maillots, chaussettes, survêtements déjà portés par ces jeunes joueurs, ils ne jettent rien de ce qu'ils récupèrent, mais peinent à trouver des repreneurs.
À une époque, années 90, on pouvait se repasser des vêtements, des choses comme ça. Ben maintenant, ça n'existe plus. Et il y a des enfants qui n'ont pas chaussures à crampons, qui viennent s'inscrire. Je leur dis, j'ai des chaussures là. Ah non, non. Les enfants préfèrent acheter les chaussures de marque, ce qu'ils voient à la télé.
Désolé par l'évolution des pratiques de consommation, l'éducateur sportif regrette une organisation à l'échelle nationale pour donner une deuxième vie au matériel sportif.
J'ai créé une association à Abidjan. Je leur envoie une fois par trimestre des équipements sportifs. Les clubs de football parisiens travaillent avec les Restos du Cœur, Emmaüs, etc. Voilà, mais sinon, on ne peut pas les donner.
Pour cette campagne, le ministère a chargé l'éco-organisme écologique et l'Union Sport et Cycle de collecter 2400 tonnes d'articles de sport et de loisirs. Jusqu'au 30 avril prochain, plus de 2000 points de collecte seront proposés à travers la France.
2024 exactement, point de collecte pour le clin d'œil. Et pour finir, je vous emmène au Japon. N'importe quel touristique vous conseillera, si vous passez par Kyoto, d'aller voir le quartier de Gion et ses geishas, gardiennes des traditions japonaises, artistes dépeintes à tort, souvent comme des travailleuses du sexe. Toujours est-il que le quartier où elles travaillent ne sera plus ouvert aux touristes. Trop nombreux, trop souvent mal polis. C'est le reportage à Kyoto de Karine Ishimura.
C'est tout le charme des ruelles du quartier de Gion à Kyoto. Ici, vers 17-18 heures, il n'est pas rare de voir se faufiler en kimono, coiffé et maquillé une geiko-san ou une maiko-san. Les étrangers disent geisha. C'est l'heure à laquelle elles vont au travail dans les maisons de thé et restaurants. Isokazu Ota est responsable de l'association du quartier Gion Sud.
Les groupes de touristes viennent ici emmenés par les guides. Apeurées, les Maiko-san ne peuvent pas sortir. Et si elles sortent quand même, les touristes sont trop contents et s'attroupent autour d'elles pour les photographier. Le problème se pose depuis le retour des touristes après le Covid.
Pour éviter que les Maiko-san, qui n'ont encore souvent que 17 ou 18 ans, ne soient la cible de touristes armés de smartphones et appareils photo, la décision a été prise d'interdire le passage de ces ruelles aux visiteurs, car il s'agit en fait de voies privées.
On ne voulait pas en venir là, mais on est forcé. Ces photos volées sont postées ensuite sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien non plus.
Le surtourisme dans les lieux les plus prisés du Japon constitue un nouveau défi. Kyoto, Karine Ishimura, France Inter.
Et face au tourisme de masse, sachez aussi qu'il faut payer désormais pour escalader le mont Fuji, environ 12 euros, qui aura aussi un nombre de visiteurs limité chaque jour.
Et voilà, comme sur le Machu Picchu, autant que je sache. Bientôt la Tour Eiffel, vous allez voir. Ah, on paye déjà. Merci beaucoup. Hélène Philippe, vous reviendrez demain.